Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Paris. Aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui parle, qui est en conférence. Virginie Leguet, bonjour. Vous êtes chef adjoint au service politique de Paris Match avec Julien Clerc à la une de Match cette semaine. Et un grand dossier sur les djihadistes, sur un djihadiste qui s'est échappé, qui est parti en Belgique. Passionnant papier. Alex Darmon, bonjour. Journaliste, bonjour. Politique, youtubeur. Votre chaîne, c'est Les Indécis. Merci d'être là. Pierre Jouvet, je ne sais pas s'il est là, porte-parole du PS et maire de Saint-Vallier dans la Drôme. Bonjour. Et Serge Grouard, maire LR d'Orléans.
Bonjour Valérie, oui, je suis là.
Bonjour, bonjour à vous, monsieur le maire. Merci d'être là. Enfin, messieurs les maires, merci d'être avec nous sur Sud Radio. On va parler du reconfinement qui semble s'éloigner, mais a-t-on raison de se réjouir ? Faut-il continuer à être prudent ? On va revenir sur cette affaire autour de Marine Le Pen qui risque 5 000 euros d'amende pour avoir diffusé des photos de Daesh. Elle dénonce un procès politique et puis Emmanuel Macron qui s'attaque à la haute fonction publique et qui veut instaurer une forme de discrimination positive. Je vois qu'il y a des sceptiques sur ce plateau. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. On va commencer avec vous, Serge Grouard. Un coup de cœur pour une découverte scientifique.
Ah oui, exactement, pour changer un petit peu des sujets du quotidien. Oui. Donc un coup de cœur pour la science en général et pour une découverte récente qui je pense est passée trop inaperçue du grand public et qui pourtant révolutionne nos connaissances. Il s'agit des ondes gravitationnelles. Oh. Alors c'est quoi c'est un grand mot, mais ce n'est pas un gros mot. De quoi s'agit-il? Ce sont des ondes qui sont produites dans l'univers par des objets énormes et qui sont en rotation très très rapide. Et ces ondes sont des ondulations infimes de l'espace-temps, comme disait Einstein, se manifestant par de minuscules modifications des dimensions de l'espace, imaginez de la taille d'un atome et moins. Ouais. Alors ce qui est formidable là-dedans, c'est qu'Einstein les avait prédites en 1905 dans sa fameuse théorie de la relativité. Et puis depuis lors, c'était un peu l'arlésienne, on en parlait, on cherchait, mais on ne trouvait pas et on n'en détectait pas. Donc on finissait par se dire, finalement, ça n'existe peut-être pas. Et puis voilà qu'en 2015, première détection d'une onde gravitationnelle qui est passée là sur Terre, fabuleuse, 100 ans après Einstein. Et comment est-ce qu'on a pu détecter ça? Eh bien, grâce à des instruments d'une précision qui défie l'entendement, puisque l'onde a déplacé très, très légèrement, de manière infime, deux miroirs situés à des kilomètres de distance, imaginez, d'un 100 000 000ème d'atome, soit 10 puissance moins 18 mètres. C'est un truc de fou. Et cette onde, imaginez encore un peu plus, elle a parcouru 1,5 milliard d'années-lumière. Voilà, je trouve que c'est absolument fabuleux. Et 100 ans après, presque, j'allais dire jour pour jour, on démontre qu'Einstein avait raison. On valide un certain nombre de choses dont on n'était pas sûr, comme l'existence des trous noirs, et puis on révolutionne pour les décennies qui viennent la cosmologie, l'astronomie. Donc un coup de cœur pour tous ces chercheurs qui nous font rêver et dont je trouve qu'on ne parle pas assez. Oui. C'est des gens formidables et on a en France des chercheurs formidables partout dans le monde, et qui font progresser la connaissance. Donc j'ai envie de dire halte à l'ignorance et vive la connaissance.
Oui,
et puis peut-être des vocations qui pourraient naître de tout cela, voyez-vous. Oui. Parce qu'on a besoin de la relève.
Oui, absolument. Puis vous avez raison. C'est vrai qu'on a dit beaucoup de mal de nos chercheurs avec Sanofi. Il y a des domaines dans lesquels, on est plutôt très très bon. C'est un coup de cœur très salutaire. Pierre Jouvet, un coup de cœur, un coup de gueule?
Non, moi j'ai un coup de gueule aujourd'hui. Alors c'est différent de ce que vient de dire Serge Grouard à l'instant. Moi c'est un coup de gueule, un gros coup de gueule contre l'entreprise SFR. L'entreprise SFR qui fait non seulement des économies sur le dos de ses salariés, mais surtout sur le dos des finances publiques, puisque le groupe SFR a décidé, c'est le groupe Altice pour être précis, mais a décidé de ne plus verser les tickets restaurants à ses salariés en jour de télétravail. Alors ça pourrait paraître anodin, sauf que SFR a enregistré en septembre un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros, soit une augmentation de près de 3% de son chiffre d'affaires. Ouais. Que SFR, dans la période du confinement, a bénéficié de 48 millions d'euros d'argent public pour financer le chômage partiel, et que pour réaliser quelques petites économies, eh ben on va faire de manière mesquine, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, 2-3 millions d'euros d'économies où on va supprimer des tickets resto à des salariés qui sont chez eux. Ben ouais. Je trouve que dans cette période, c'est vraiment du non-sens dans la gestion d'une entreprise. Et en plus de ça, c'est profiter et user de l'argent public au maximum quand on en a besoin, et après ne pas aider ses salariés. Je trouve ça vraiment stupide.
Et à votre connaissance, à votre connaissance, c'est la seule entreprise à faire ça. Il doit y en avoir d'autres, non ?
Je ne sais pas s'il y en a d'autres. En tout cas,
celle-ci, oui, vous avez
été démasquée. Et ce qui est surprenant, c'est que ce matin, la ministre du Travail, interrogée sur le sujet, a dit « c'est pas mon sujet de rentrer dans le débat et dans la discussion de gestion d'une entreprise », ce qui peut me paraître logique, sauf que en fait, c'est toujours le même schéma. On est toujours dans ce pays très, très fort et très, très dur avec les plus faibles. Et quand il s'agit d'aller taper un peu plus les forts, il n'y a plus personne et plus personne ne réagit. Et bien, je trouve ça inadmissible.
Alors, je vois que la SFR a été contactée par France Télévisions et ils ont répondu à attribuer à chaque salarié en télétravail la somme de 100 euros par an. Donc, je ne suis pas très forte en maths, mais 100 euros divisé par je ne sais pas combien de jours.
Ça ne fait pas le compte.
Ça ne fait pas le compte. C'est généreux, non, Pierre Jouvet, de quoi vous vous plaignez?
Un calcul de tête, ça ne fait pas le compte.
Non. Non, mais vous avez raison. C'est pas bien. Voilà. Avant de vous donner la parole, moi j'avais, parce que les autres vont nous amener peut-être sur d'autres sur une discussion plus longue. J'avais poussé un coup de gueule sur cet homme qui a écrit un livre sur la séquestration de Kim Kardashian avec un titre très putassier. J'ai séquestré Kim Kardashian. Il a été invité. Il y a eu même Paris Match a fait un papier sur lui. Il a été invité partout. Yunis Abbas, et donc il raconte en gros que c'était des gentils papis braqueurs, que c'était un peu des pieds nickelés. Ben, il y a des avocats, les avocats du veilleur de nuit qui cette nuit-là a été séquestré, qui ont décidé de saisir la justice et qui ont obtenu que ses droits d'auteur soient saisis et qui ont dénoncé une campagne de communication indécente. Le client a été très perturbé, c'était un jeune étudiant à la Sorbonne qui faisait ça pour gagner sa vie, pour payer ses études. Et effectivement, de voir cet homme sur les plateaux, le braqueur sur les plateaux de télé fanfaronner en disant on était un peu des bras cassés et tout ça, et ben non, c'était pas des bras cassés. Le type, il est le veilleur de nuit est traumatisé, il a des séquelles, et donc voilà, c'est la maison d'édition L'Archipel qui a publié ce torchon, je peux le dire comme ça, et je trouve que c'est une bonne chose. Je sais pas si vous avez une réaction. Ça m'a beaucoup choqué.
Moi aussi, ça m'a énormément choqué. Ça dit beaucoup sur la société d'aujourd'hui, quand même, vous voyez, surtout moi je viens des réseaux sociaux, de YouTube et tout. C'est vrai qu'on cherche toujours le buzz pour le buzz, mais là c'est vraiment choquant, une heure de grande écoute, d'entendre un mec qui dit qu'il a volé et que voilà, c'est plutôt marrant, enfin que ça peut arriver à tout le monde. Moi, ça m'a terriblement choqué, cette histoire.
Moi aussi, ça montre le cynisme de notre société, et j'allais dire le cynisme des sociétés, des maisons d'édition qui n'hésitent pas à se dire que c'est un très bon sujet et que si ça peut faire vendre, ça sera très bien.
Oui, Serge Grouard.
Oui, c'est totalement indécent. Je partage mille fois tout ce que vous dites là à l'instant. Mais je dis qu'arrêtons de lui faire de la pub aussi en parlant.
Oui, absolument. Non, mais c'est de dire que voilà, là, c'est pas lui faire de la pub, c'est de dire que ses droits d'auteur vont être saisis, donc on ne publie pas des livres comme cela impunément. Alexandre, on va
pour la liberté aux salariés d'SFR là pour le compagnon.
Je ne suis pas sûr qu'ils vendent autant de livres que cela. Peut-être une poignée d'euros, donc ça permettra peut-être de payer un dessert. Allez, on va marquer une pause, on se retrouve dans un instant et on écoutera Virginie Le Guay et Alex Darmon sur leur coup de gueule. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, avec Pierre Jouvet, porte-parole du PS et maire de Saint-Vallier, c'est dans la Drôme. Serge Grouard, maire Les Républicains d'Orléans. Virginie Le Guay, chef adjoint au service politique de Paris Match. Et Alex Darmon, journaliste politique, youtubeur. Votre chaîne Les Indécis. On va parler reconfinement, qui s'éloigne visiblement, apparemment, mais doit-on se réjouir? Certains médecins continuent de tirer la sonnette d'alarme. Marine Le Pen qui risque 5000 euros d'amende pour avoir diffusé des photos de Daesh. Procès politique, dénonce le Rassemblement National. Et puis accès à la fonction publique, faut-il instaurer une discrimination positive? On continue notre tour de table avec vous, Alex Darmon. Un coup de gueule?
Oui, un coup de gueule qui va se transformer en coup de cœur très vite, vous allez voir. Mon coup de gueule, en fait, c'est contre les chiffres de la Fondation Hulot qui ont été publiés en début de semaine sur l'utilisation des pesticides et des matières dangereuses par nos agriculteurs et nos exploitants. Les chiffres sont pas faux, mais en tout cas, ils sont biaisés. En quelque sorte, l'interprétation est mauvaise et ils sont mal utilisés. Donc ça me révolte parce qu'en fait, les agriculteurs, c'est un métier tellement compliqué. Quand on le connaît, moi, j'ai fait le tour des territoires, j'ai des copains youtubeurs qui sont agriculteurs, Étienne, l'agri-youtubeur, ou même des fermes comme La Forêt dans l'Allier que j'ai visité. Et ce sont des choses et des gens importants. Et en fait, en donnant ces chiffres-là, on leur rend pas service. Voilà. Ouais. C'est un métier qui a été essentiel. On l'oublie trop souvent, mais on a manqué jamais de rien pendant le confinement dans nos rayons de fruits, de légumes dans notre pays, et ils bossent, ils s'arrachent. Alors je dis pas que tout le monde, il y a des vidéos partout, mais je dis pas que tout le monde est positif. En tout cas, ils font l'effort, et ces chiffres, il aurait été intéressant qu'ils soient défendus, qu'ils soient même par les agriculteurs eux-mêmes, qu'ils soient contredits, et on n'a pas beaucoup entendu.
En quoi ils étaient faux, ces chiffres?
C'est-à-dire ils se basaient sur une année, en fait. Ouais. Sur une année, on prenait l'année 2018, qui est l'année où c'est la dernière année où on peut acheter du pesticide, donc ils ont stocké un maximum, et donc on a dit que l'augmentation d'utilisation du pesticide augmentée, mais c'est pas vrai. Parce que quand vous regardez entre 2009 et 2018, ça diminue, alors je vais peut-être dire une erreur, mais je crois que c'est de 46%, quelque chose comme ça. C'est énorme, en fait. Donc ils participent à l'agroécologie, mais c'est comme tout, on peut pas changer du tout au tout, du jour au lendemain, en quelque sorte. Ouais. Voilà, donc moi, mon coup de gueule, c'est pour la Fondation Hulot, qui se transforme en coup de cœur pour ces agriculteurs qu'on aime.
Oui, la Fondation Hulot qui normalement devrait être honnête.
Ah oui, normalement.
Bon. Mais bon,
après.
Ouais. Commentaire, vous aviez vu ces chiffres, les uns et les autres. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir, Pierre Jouvet.
Oui, moi j'avais vu ces chiffres. Effectivement, je crois que il faut pas être trop clivant sur ces sujets comme on a tendance à le faire. Moi, je veux aller dans le sens de ce qui vient d'être dit. Les agriculteurs, pour leur immense majorité, font énormément d'efforts pour opposer, sortir du modèle traditionnel dans lequel ils ont pu grandir et dans lequel ils ont pu mettre en place leurs exploitations. Les agriculteurs ne sont pas les pollueurs qui veulent bien être décrits par certains de temps en temps. Et je trouve ce coup de gueule qui se transforme en coup de cœur plutôt salutaire, et je le partage.
Serge Grouard, vous avez aussi des agriculteurs dans votre région?
Mais c'est très juste que les agriculteurs ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour s'adapter depuis des années et des années. Et il y a une tendance à toujours les stigmatiser. Donc moi, je suis très heureux de ce coup de gueule, coup de cœur. Et il y a vraiment une adaptation. C'est un des métiers qui peut-être depuis 20 ans, 30 ans, c'est le plus adapté, fait le plus d'efforts. Et puis maintenant, il y a une réalité aussi, et c'est bien qu'on en parle, c'est que l'agriculture française est en grande difficulté. Ça, c'est la réalité.
Absolument.
On était deuxième exportateur mondial il n'y a pas si longtemps que ça, on est maintenant cinquième. Et là, il y a vraiment des politiques à reconstruire pour faire en sorte que l'agriculture française reprenne sa place au plan mondial, parce que c'est un enjeu qui est stratégique pour les années à venir.
Oui, absolument. Virginie?
Oui, c'est une profession dont je rappelle que le revenu moyen est extrêmement faible et où le taux de suicide est un des plus importants et qui a beaucoup, beaucoup de mal à, disons, projeter une image positive parce qu'elle est tout le temps sujette aux attaques parfois outrancières des écolos.
Allez, votre coup de gueule, Virginie?
Alors moi, mon coup de gueule qui ne transformera pas en coup de cœur, pardonnez-moi, je suis peut-être pas dans une humeur assez sereine aujourd'hui. Mon coup de gueule, c'est la démission de Frédéric Mion, qui jurait il y a encore quelques semaines ne rien savoir.
Ça aurait pu être un coup de cœur pour sa démission.
Démission qui arrive trop tard, parce que c'est une démission qui arrive quasiment forcée. Je rappelle que c'est le directeur de Sciences Po et qu'il y a quelques semaines encore, il affirmait ne rien savoir des soupçons qui pèsent sur Olivier Duhamel. Et finalement, l'inspection interne lancée par Frédérique Vidal, la ministre, a montré que non seulement il savait, mais qu'il avait été alerté à plusieurs reprises. Et
qu'il n'était pas le seul en plus.
qu'il n'était pas le seul. Je rappelle que Marc Guillaume lui-même a démissionné du siècle. Je rappelle que Jean Vell, avocat très influent, reconnaissait savoir parce qu'il était très proche d'Olivier Duhamel et expliquait qu'il ne pouvait rien dire parce qu'il était tenu par le secret professionnel. Je m'interroge sur un secret professionnel qui concerne quelqu'un qui n'est pas le client du dit avocat. Je ne sais pas en quoi le secret professionnel peut être invoqué. Et je suis franchement tout à fait scandalisée de voir que non seulement ces gens savaient, mais que ces dernières années, ils ont continué à promouvoir Olivier Duhamel, qui a fait la leçon inaugurale de Sciences Po cette année, qu'ils ont aidé à prendre la présidence du siècle. Et je rappelle aussi, parce qu'on semble l'oublier, que Sciences Po est une école, qu'il s'agit de former les jeunes, et que laisser des gens dont on connaît des choses extrêmement répréhensibles, occuper des fonctions très importantes dans une école, franchement, il y a quelque chose qui, moi, me scandalise et ne me lasse pas de me scandaliser, d'autant que je le redirai, et là, je m'arrêterai, que Frédéric Mion et Marc Guillaume sont tous les deux des très brillants personnages qui sont sortis de l'ENA au Conseil d'État, que le Conseil d'État est censé dire le droit, respecter le droit, et qu'eux n'ont fait ni l'un ni l'autre.
Et que Olivier Duhamel était conseiller au Conseil d'État.
Et agrégé de droit public lui aussi, et que Jean Veil est avocat. Absolument. Donc tous ces gens-là connaissent parfaitement les limites de la loi, et s'en affranchissent sans aucun scrupule. Et là, moi, je dois dire, je me suis sentie bien naïve quand j'ai découvert que, en fait, non seulement beaucoup de gens savaient, mais avaient continué à encourager, promouvoir Olivier Duhamel. Je rappelle que Frédéric Mion, en septembre, disait encore, lorsqu'il a présenté Olivier Duhamel au début de la conférence inaugurale, qu'il s'honorait d'être l'ami d'Olivier Duhamel. Alors là, franchement, moi, les bras m'en tombent.
Quelle image ça donne ? Vous avez complètement raison. Quelle image ça donne ? Une image déplorable, une image de l'entre-soi. En plus, quand vous lisez la presse, hier soir, qui vous dit que le choix de Frédéric Mion a été fait dans le salon de Monsieur Duhamel.
Voilà, Olivier
Duhamel lui-même dans son salon, qui avait aucune sélection réelle. Bon, voilà, c'est dégueulasse. Clairement, c'est dégueulasse.
Oui, Serge Gouard.
Ah oui, partage à 100% ce que là, moi, je suis abasourdi de ce que j'entends. J'ai connu Sciences Po il y a pas mal d'années maintenant, quand j'y étais étudiant. J'y ai enseigné aussi quelques années. Et pour moi, c'était une image de sérieux, c'était une image, d'apprentissage. Voilà, donc d'entendre tout cela, je trouve ça assez écœurant. Et je rejoins ce que vous dites sur la question un peu de cet entre-soi quand même. Ça va bien, ça. Il y en a ras-le-bol de tout ça. Voilà. Alors, il faut faire du ménage, quoi. Voilà.
Oui, il faut faire du ménage. Du ménage. Mais peut-être que cette affaire va faire réfléchir un certain nombre de gens qui sont en connaissance d'affaires et qui continuent malgré tout de faire comme s'il ne s'était rien passé ou comme s'ils n'étaient pas au courant. C'est-à-dire que ces gens-là, aujourd'hui, vont peut-être se poser aujourd'hui des questions sur la mise en avant de ces gens-là qui, en général, en plus, recherchent la lumière. C'est une des caractéristiques de ces salons. Il n'y a pas d'autre mot. Vous voulez dire un mot également, Pierre Jouvet ?
Que tout ce qu'on découvre jour après jour sur ces affaires, c'est absolument écœurant. C'est vraiment un système, effectivement, Serge Gros a raison, un système d'entre-soi qui doit tomber, qui doit s'effondrer de manière définitive. Et j'espère, comme vous le disiez, Valérie, à juste titre, que s'il y en a d'autres qui savent ou qui savaient, ils le disent maintenant. Et qu'on arrête ce système d'omerta et qu'on arrête ce système de protection des uns des autres où, en fait, on a l'impression pour le grand public qu'un petit noyau se tient, se soutient, reste vraiment dans la préservation personnelle. Il faut que tout ça s'écroule, il faut que tout ça tombe. C'est malsain, c'est écœurant. Et voilà, moi, j'ai peu de mots, en fait, sur le sujet, mis à part à dire qu'en fait, tout ça me dégoûte depuis des semaines que c'est sorti. Et voilà, que la pyramide continue de s'écrouler, et j'en suis bien content.
Et moi, je souligne le courage des étudiants de Sciences Po qui, semaine après semaine, ont manifesté sous les fenêtres de Sciences Po pour demander la démission de leur directeur. Et je rappelle qu'aujourd'hui, ils ont obtenu gain de cause, mais qu'il y a quelques semaines, tout le monde disait, oh là là, ils sont bien agités et ils sont bien injustes.
Absolument. Ouais. Allez, on marque une pause et on va commencer nos débats autour de l'actualité. C'était aussi l'actualité. Le reconfinement s'éloigne-t-il réellement ? Est-ce qu'on doit se réjouir ? On a l'impression qu'il y a une sorte de satisfecit du gouvernement français. Est-ce que vous partagez cet avis ? 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Juste quelques remarques. Un auditeur me dit, quand dans l'affaire Kouchner, vous voyez que même les parents étaient au courant et qu'ils n'ont rien fait. Après, ils ont respecté le souhait de leur fils, qui, en tout cas le père Kouchner, qui ne voulait pas, quand il l'a su très tard, il l'a su en 2008,
Bernard Kouchner. Enfin, pardon, quand le fils a parlé à sa mère, Evelyne Pizier, seulement... Oui, bien sûr, ouais. Mais non seulement... Elle ne l'a pas cru dans un premier temps, et après, elle lui a dit, mais de toute façon, moi, je resterai avec mon mari, vous voulez prendre mon mari, ouais. Vous voulez l'attaquer. Ce n'est pas juste respecter la parole de son fils, absolument. Parce qu'il était venu lui parler.
Absolument. Allez, le reconfinement s'éloigne, alors on est passé, d'un reconfinement serré qui allait arriver à une sorte de bravo à tous, on a vaincu le Covid, une forme de satisfaction hier, si on écoute le porte-parole du gouvernement, qu'est-ce que vous en... Alex Armon.
Non mais d'abord, moi je suis impressionné par les Français, il faut être honnête quand même. Parce que bon,
ils sont formidables.
Je sais pas ce que ça va donner dans quelques semaines, dans quelques mois. Peut-être que ça va exploser comme tous les spécialistes nous le disent. Moi je suis pas médecin donc je peux pas savoir. En tout cas, les Français, on dit que c'est un peuple qui râle toujours, qui est jamais content, qui. Tout ce que vous voulez. Aujourd'hui se comporte plutôt bien, accepte les règles, comprend les enjeux. Donc oui, les chiffres y baissent, et en tout cas ils sont moins forts, l'augmentation est moins forte consécutivement. Maintenant, est-ce que c'est le moment de se féliciter? Je ne crois pas. Je crois qu'on est au creux de la vague en ce moment. Ouais. Donc il faut peut-être justement être assez humble, faire redescendre tout le monde et dire il faut continuer, il faut s'accrocher. Et surtout comprendre aussi que les Français en ont un peu marre.
Voilà. Mais c'est
trouver un juste milieu.
C'est un peu la stratégie du gouvernement. C'est vrai que les nouveaux variants plus contagieux sont sur le sol français. Certains spécialistes appellent à reconfiner et annoncent un pic au mois de mars. Donc on n'est pas forcément à l'abri, Serge Grouard.
Oui, moi, écoutez, depuis des mois, et Pierre Jouvet doit vivre la même chose, en tant que maire, on est quelque part au cœur de cette crise, de cette pandémie. Et donc, on a une expérience et on fait un certain nombre de constats. Et moi, je suis désolé de dire, et ce n'est pas dans un esprit polémique, mais je n'habite pas sur la même planète que le gouvernement. Voilà, il y a un truc là, un truc bizarre. Je parlais des ondes gravitationnelles, il y a peut-être encore une découverte scientifique à faire là, mais on n'est pas sur la même planète. Pourquoi? Parce que moi, je vois ce qui dysfonctionne et je vois ce qui fonctionne. Ouais. Ce qui fonctionne, c'est ce qui relève presque toujours des hôpitaux, avec des gens sur le terrain absolument d'un dévouement, mais vraiment remarquable, tous les jours, toutes les nuits. Et je vois également les collectivités locales et les mairies qui ont pris en charge un certain nombre de dispositifs, et notamment pour beaucoup d'entre elles, et nous en particulier sur Orléans, le centre de vaccination. Ouais. Et ça fonctionne. Et puis, je vois tout ce qui ne fonctionne pas. Je vous donne un exemple. Vous voulez un exemple très concret? Allez-y. De la semaine dernière. La semaine dernière, donc, on a des vaccins au compte-goutte, mais on a des vaccins. Donc, on prend les rendez-vous, on organise tout ça. Bon, ça fonctionne. Eh bien, la semaine dernière, on n'avait plus les bonnes aiguilles et les bonnes seringues. Voilà, parce que ça, c'est fourni par l'État. Donc, on a eu un moment extrêmement difficile. Vous savez ce qui s'est passé?
Non, qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible?
Eh bien, comment c'est possible? Ça, si je pouvais savoir. Avec les seringues et les aiguilles qu'on nous proposait, on ne pouvait, vous savez, dans les petits flacons on ne pouvait faire que 5 doses au lieu des 6. Vous voyez le truc, hein? C'est 6 doses, on ne pouvait plus en faire que 5. Ouais. Donc, évidemment, toute la prise de rendez-vous était fichue en l'air, parce qu'on pouvait prendre 5 rendez-vous au lieu de 6. Ouais. Eh bien, ce sont des agents de la mairie d'Orléans qui ont été acheter les seringues pour qu'on n'interrompe pas la chaîne de vaccination. Voilà la réalité de ce que nous vivons au quotidien. Faites le test sur la plateforme Doctolib. Ça, c'est quelque chose qui est mis en place par l'État. Eh bien, vous ne pourrez pas obtenir de rendez-vous. Nous, on ne peut plus prendre de rendez-vous pour le mois de mars. Vous voyez, on est tout près du mois
de mars. Pour le mois de mars.
Ouais. Pierre Jouvet, vous vivez la même chose?
Je pourrais reprendre les mots et les phrases une à une de Serge Grouard. Il est maire d'Orléans, je suis maire de Saint-Vallier, on est à plus de 600 km d'écart.
Avec des villes différentes.
On est pas du même parti politique. On voit la même chose. C'est une catastrophe. On a une gestion de la part de ce gouvernement, je m'excuse de le dire ainsi, qui est calamiteuse. C'est-à-dire qu'on a de grandes orientations qui sont données à la télé et à la radio. On a des satisfecit qui sont donnés. On nous explique que le taux de contamination est en train de diminuer. Moi, dans mon territoire, on constate l'inverse. L'hôpital dans lequel je suis au conseil, membre du président du conseil d'administration, est en train de voir son taux en réanimation exploser. On n'arrive plus à avoir la possibilité de réouvrir des plages de vaccination d'ici la mi-mars au plus tôt. Alors que la semaine dernière, le Premier ministre a annoncé 1 800 000 plages de vaccination réouvertes dans les prochains jours. Tout ça, c'est du pipeau. C'est incroyable. Et ce que Serge Broire a vécu sur les seringues, on a vécu la même chose dans mon centre de vaccination à Saint-Vallier, où les médecins du centre de vaccination ont dû se réadapter. Tout ça est fou. Tout ça est fou. On est dans un espèce de truc où maintenant, il y a une espèce de com' positive. Ouais. Alors, on voit le président de la République se mettre en photo, dire il faut aérer les portes, il faut bien se laver les mains, il faut remettre son masque.
Il est dans son rôle, monsieur le maire. Il est dans son rôle.
Embrasser Paulville, presque.
Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un décalage entre ce que vivent les Français, sans être forcément à la tête d'une ville comme vous l'êtes tous les deux, mais de nos proches, de nos parents qui cherchent à se faire vacciner, parfois avec des comorbidités et des choses, et qui ne trouvent pas de place, où on leur dit « vous ne pourrez pas être vacciné avant le mois de mars ».
Bien sûr, Alex Armand. Mais après, j'entends, d'ailleurs, les maires, je parlais des agriculteurs, moi les maires, je les adore, je vous adore, parce que vous faites le travail au quotidien, et vous êtes au plus près des administrés. Et c'est vous qui avez vraiment le pouls du pays. Maintenant, je pense que c'est un échec de l'État, mais il faut aussi le reconnaître, c'est un échec de l'Europe. Franchement, la présidente de la Commission européenne qui hier déclare et qui dit qu'on a sous-estimé la masse vaccinale qu'il allait avoir dans les pays européens. Enfin voilà, quand on décide de tout centraliser au niveau de l'Europe, alors l'Europe c'est formidable, moi je suis un Européen convaincu, mais là il faut dire qu'on s'est planté. Il y a l'État, certes, mais il y a aussi l'Europe, je suis désolé.
Oui, Virginie.
Oui, c'est très... moi je partage, ça malheureusement... Je suis convaincu de la nécessité de l'Europe, mais je fais exactement le même constat et je ne comprends pas cette sorte de naïveté européenne. Comment a-t-on pu ne pas envisager, notamment par exemple, de prendre avec les laboratoires fabriquant les vaccins des licences de fabrication? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de licence de fabrication en France, où l'on aurait pu développer des chaînes de fabrication et l'on ne serait pas au compte-gouttes actuel? On aurait pu vacciner massivement. Ça aussi, c'est un échec incompréhensible.
Oui, Virginie.
Ce qui est parfaitement vrai, c'est que cette pandémie et les différentes difficultés qui sont apparues depuis 10 mois a montré l'incroyable état dans lequel était notre pays. Je parle bien sûr des hôpitaux qui n'avaient cessé de manifester avant même la pandémie pour dire on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez de lits, on n'a pas assez de personnel, écoutez-nous, entendez-nous, et qui ont manifesté pendant des semaines, je crois pendant quasiment un an avant le début de la pandémie, dans l'indifférence générale, et qui s'est heurté à la surdité de l'exécutif. Je parle de ce qu'on croyait être notre formidable autonomie, le pays de Pasteur qui fait des vaccins et qui pourrait en faire encore et qui dispose de très grandes entreprises comme Sanofi, et je parle de l'état de dénuement dans lequel tout ça est apparu. Et moi, ça m'a fait un peu froid dans le dos. Je me suis dit, finalement, la gauche et la droite, pardonnez-moi, messieurs, je ne vous incrimine pas, mais la gauche et la droite ont laissé filer des tas de choses depuis 30 ans, parce que là, on ne peut pas dire c'est Emmanuel Macron. Et le pays, aujourd'hui, s'est montré sous son vrai jour. Et pour moi, ça a été une grande surprise de voir à quel point il était démuni. Comment se fait-il que nous soyons le seul pays du Conseil de sécurité de l'ONU qui n'a pas fait son propre vaccin? Comment se fait-il que nous nous soyons remis aussi aveuglément à l'Europe? Peut-être c'était une bonne idée de faire des commandes groupées, mais pourquoi les avoir fait si tard? Pourquoi n'avoir pas vissé les contrats? Pourquoi n'avoir pas fait travailler sérieusement des vrais spécialistes de contrats sur cette question? Pourquoi entendons-nous aujourd'hui Madame von der Leyen dire « Ah oui, on a sous-estimé », mais enfin, elle le dit alors que nous sommes quasiment à la mi-février. Finalement, pour nous, c'est la double peine. On a eu affaire à la paperasserie européenne, à la bureaucratie, la lenteur du système européen. Et maintenant, on a affaire au mépris de notre système français pour ce qui est l'intendance. Genre, bon, allez, on lance une campagne de vaccins, l'intendance suivra. Ben, l'intendance, elle ne suit pas quand les vaccins ont des conditions de conservation aussi compliquées. L'intendance doit être réglée au cordeau et l'intendance n'est pas une petite chose. L'intendance, une bonne idée qui n'est pas exécutée, est une idée morte. Et là, cette bonne idée, elle n'a pas été exécutée, elle n'a pas été prévue. Ouais. Et là, on est en train de ne même pas réussir à rattraper les débuts calamiteux de la campagne.
Ouais. Ouais. Juste, j'aurais juste dire un mot, je le dirai tous les jours s'il le faut. Je répondrai à toujours ces auditeurs qui disent arrêtez de parler du vaccin, parler de ceux qui meurent, parler de ses effets secondaires. Les Français ne veulent
pas. Mais les gens vaccinés sont ceux qui ne mourront pas.
Voilà, bah c'est ça, ce vaccin. Il n'y a pas eu de mort suite au vaccin. Les gens qui sont morts étaient des gens extrêmement âgés, qui avaient des comorbidités.
Je 80 000 personnes à peu près aujourd'hui.
Enfin, vu la masse de gens qui ont été vaccinés, il n'y a pas d'effet secondaire. Et ce vaccin, quand vous dites oui, mais on n'empêche pas la contagion et tout, ça vous empêche d'avoir des formes graves. Je sais que je me fatigue, je m'épuise à le dire. Mais voilà, vous ne vous vaccinerez pas, c'est votre droit. Mais c'est la seule manière, en tout cas, de se prémunir. Pardon,
non,
Alex.
Non, mais je vous en prie. Et puis scientifiquement, puisqu'on manque souvent de scientifiques et de raisons dans le débat politique en ce moment. Scientifiquement, quand on voit les premiers résultats qui se déroulent en Israël et où ils communiquent leurs résultats à Pfizer, on voit concrètement, scientifiquement, par les chiffres, que ça marche. Et d'ailleurs, c'est là où j'en veux aussi au gouvernement et à l'Europe. C'est que le président Macron nous a dit quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Quand on voit que l'État d'Israël a payé peut-être deux fois le prix des doses, on aurait peut-être dû faire ça en Europe aussi, en France. Parce que c'est une crise. Économiquement, on s'en sort pas. Et psychologiquement, on ne s'en sortira pas avant un moment. Non, il aurait fallu, quoi qu'il en coûte, être les premiers à être livrés.
Oui.
Plus que payer deux fois plus cher le prix des doses, il y a un levier sur lequel on refuse d'agir, et Serge Grouard l'a soulevé. C'est pourquoi on ne récupère pas les licences.
Emmanuel Macron a écarté d'office cette hypothèse.
Pour lancer les chaînes de production. Pourquoi aujourd'hui, on manque de vaccins. On a des industries en France, des industries pharmaceutiques en France, qui auraient la capacité de produire le vaccin avec les licences Pfizer, BioNTech ou Moderna. Pourquoi on ne le fait pas?
Parce qu'on ne veut pas s'attaquer aux grands laboratoires qui, évidemment, ne freinent des quatre fers pour que cette procédure ne se mette pas en œuvre.
Oui, mais le Japon aussi est
dans... Il y a une procédure légale pour le...
Je voulais qu'on revienne quand même sur la communication du gouvernement et cette espèce de discours très apaisant. Il n'y aura vraisemblablement pas de reconfinement. Je vois le docteur Jimmy Mohamed qui dit « La situation est tellement sous contrôle qu'un ami chirurgien viscéral doit annuler toutes ses interventions chirurgicales la semaine prochaine. Dans ces annulations, il y a des patients avec des cancers. Il a dû se battre et négocier pour opérer un malade avec un cancer avancé. » C'est ce que disent les médecins qui sont aujourd'hui au front, il n'y a pas d'autre mot. Dans certains hôpitaux dans l'Est de la France, c'est 150% de malades du Covid dans les hôpitaux. Donc on a l'impression, en vous entendant, messieurs les maires, et en lisant ce que disent les médecins, qu'il y a là aussi un décalage entre... Alors oui, le plateau semble être à la baisse, enfin qu'on est, on est sur... Mais sauf que les médecins disent oui, ça va dans 15 jours, attention, les conséquences des variants. Donc pourquoi ce discours apaisant? Là, on est plus dans la politique, Serge Grouard.
Écoutez, j'ai le sentiment, encore une fois, qu'il y a une sorte d'autosatisfaction au gouvernement que je ne comprends pas, et je ne comprends même pas qu'il n'y ait pas l'intelligence de la prudence. Parce qu'effectivement, la crise est là, on ne sait pas évidemment comment elle va évoluer dans les semaines qui viennent. Donc je pense qu'il faudrait avoir un peu de recul, et puis il faudrait véritablement, encore une fois, écouter celles et ceux qui sont sur le terrain et qui voient la réalité des choses. Et moi, je suis frappé, encore une fois, de ce décalage. C'est ce que disait Pierre Jouvet tout à l'heure également. Je partage mille fois ce qu'il dit. Vous voyez, c'est très intéressant parce qu'on a des sensibilités politiques différentes. On ne fait pas de petites tambouilles politiques dans ce que nous disons. On constate des réalités de terrain et on constate la même chose. On constate exactement la même chose et, comme il disait, à 600 km de distance. Donc voilà, on ne peut pas tous se tromper en même temps.
Non.
Nous, on est là en tant que maire pour essayer d'aider à ce que les choses se passent le mieux possible. Mmh. Voilà, c'est ça l'état d'esprit de tous les maires de France, quelle que soit leur sensibilité politique. Mmh. Et on est obligé en permanence de se débrouiller, de faire comme on peut. J'aurais mille exemples encore à vous donner. Je ne vais pas vous en abreuver parce que ça serait fastidieux.
Ouais.
Voilà, donc tous les jours, c'est cette réalité-là. Donc moi, j'incite le gouvernement à voir la réalité de ce qui se passe sur le terrain et à faire preuve quand même d'un peu de retenue dans cette communication qui n'est même pas intelligente parce qu'elle va se retourner contre le gouvernement prochainement. Forcément, c'est ce qui se passe depuis un an maintenant. Mmh. On n'a que des petits moments de gloriole. Rappelez-vous, tout est sous contrôle à l'été dernier, avant le deuxième reconfinement de l'automne. Tout est sous contrôle. Mmh. Voilà, il y a une sorte de gloriole là qui frôle aussi là, une forme d'incompréhension de ce qui se passe, voire même d'indécence, moi je le dis.
Allez, on se retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite, restez avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, donc l'exécutif plutôt optimiste sur un non-reconfinement, avec un discours relativement satisfait de la situation en France, et on soulignait un décalage entre ce que vivent les deux maires qui sont avec nous, ce que vivent un certain nombre de médecins. C'est vrai que les Français font beaucoup d'efforts, il faut le dire, que pas de reconfinement, mais on est quand même confiné d'une certaine manière, puisque à part travailler, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Il y a 18 heures, on doit être rentré chez soi. Sur l'aspect politique des choses, c'est quoi ? C'est une méthode couée, comme le dit un auditeur ?
Je ne dirais pas tout à fait ça. Moi, je dois reconnaître que 15 jours après, parce que demain, ça fera 2 semaines, 15 jours après la déclaration d'Emmanuel Macron de ne pas confiner, les chiffres, et là, je parle des chiffres nationaux. Je sais bien qu'il y a des inégalités entre les villes et entre les régions, et qu'il y a des régions où c'est très tendu, des régions où c'est moins tendu, mais les chiffres sont plutôt sous contrôle. Pardon, et je ne suis pas mécontente non plus d'entendre que les scientifiques qui nous expliquaient d'un ton péremptoire que le confinement était la seule solution, confinement qui nous aurait coûté extrêmement cher, non seulement en termes économiques, sociaux, mais en termes psychologiques et même psychiatriques. Je ne suis pas mécontente de voir que ces scientifiques, finalement, qui, rappelons-nous, à Noël, nous disaient « Oh là là, ça va être une bombe !» au 1er janvier, nous disaient « Oh là là, vous allez voir les chiffres de janvier !» Bon, ben, on est quoi, le 10 ou 11 février ? Et les chiffres sont toujours pas explosé. On n'est pas dans cette fameuse courbe exponentielle que toutes les modélisations
nous avaient annoncé.
Et moi, je trouve que le pari politique d'Emmanuel Macron, et j'en termine, c'est un pari politique qu'il a pris au vu de tous les Français et qu'il assume. Il prend son risque et il prendra peut-être sa paume, mais ce pari politique, 15 jours après, est à peu près tenu.
Oui. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, et je ne dis pas ça pour vous, mais messieurs les maires, c'est beaucoup plus facile d'être dans l'opposition que d'être au gouvernement. Honnêtement, parce que effectivement, c'est une question de pari. Personne ne sait ce qui va se passer à aucun moment. Et Emmanuel Macron et Jean Castex, qui on pensait nous annoncer qu'on allait être confinés il y a 2 semaines, ont pris un pari qui, pour le moment, s'avère payant. S'avère payant au niveau national, ça c'est certain. Quand vous parlez aux Français, ils sont contents de pas être confinés, malgré tout, de façon générale. Maintenant, il faudra voir, c'est ce que je disais tout à l'heure, je me rends pas compte de ce qui va se passer, je suis pas médecin, je peux pas vous le dire, mais c'est vrai que quand vous avez pas de consensus au sein même du milieu médical, au sein même du monde médical, qui se rentre dedans sur vos plateaux télé, sur vos plateaux radio, ça peut que porter à confusion. Donc aujourd'hui, on est un peu perdu, il faut écouter les élus locaux et les maires qui nous font remonter les informations, et puis maintenant, il faut attendre, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, si ce n'est qu'eux, ils sont dans leur rôle au gouvernement de nous dire que tout va bien, si tout va bien, si les chiffres ne montent pas. Ouais. Et puis, c'est aussi pas mal, peut-être un petit peu, d'annoncer des bonnes nouvelles aux Français, parce que ça fait quand même un an qu'on nous répète que des mauvaises choses, à longueur de journée. Ouais, ouais. Donc c'est peut-être pas mal aussi
d'avoir un côté un peu plus...
Voilà, nos responsables nous dire bravo, continuez et donnez-vous du mal. Voilà.
Je suis assez d'accord avec un auditeur ou une auditrice sur Twitter qui nous dit c'est quoi ces journaleux qui se droguent, qui se demandent si Macron va gagner son pari. C'est vrai que le mot de pari, il me choque un peu. Il dit on n'est pas dans un hippodrome, parler de méthode, mais c'est vrai que ce terme de pari, quand on parle de santé, quand on parle de soignants, il peut être choquant.
Je comprends, monsieur, pardonnez-moi.
C'est un pari politique.
Et la journaliste que je suis aurait peut-être pas dû utiliser ce mot, pardonnez-moi, monsieur, mais je pense que quand il a décidé de ne pas reconfiner pour la 3e fois le pays, est-ce qu'il était sûr de ce qui allait se passer, ou est-ce qu'il a pris le risque ? Alors, je ne sais pas, mais en politique, l'art de gouverner, c'est prendre des risques. Et là, il a clairement pris un risque. Alors, si vous n'aimez pas le mot pari,
ce
que je
Paris...
dis, c'est qu'il n'avait pas la réponse au choix qu'il a fait. Il pouvait prendre un choix qui se serait avéré mauvais, et auquel cas il l'aurait payé plein pot, ou il pouvait prendre ce choix qui, 15 jours après, finalement, est plutôt gagnant. Voilà, c'est ça. Pardon, monsieur.
Allez.
Il veut réagir. Il a fait effectivement ce choix politique. Moi, je ne suis pas un adepte absolu de dire il faut confiner pour confiner. La situation qu'on vit dans le pays, elle est très difficile, les gens n'en peuvent plus, mais nous non plus, on n'en peut plus. Enfin, on peut se le dire franchement, entre nous sur ce plateau, on en a tous ras-le-bol. Bon, et on a tous envie de reprendre une vie et une activité la plus normale possible. Donc moi, je ne suis pas un adepte de dire il aurait fallu confiner, il n'y a qu'à, faut qu'on, c'est facile.
Bien sûr.
Moi, simplement, ce que je dis, c'est un truc assez simple. Qu'on laisse le pays non confiné, très bien. Mais dans ce cas-là, adaptons à la réalité du besoin de cette situation virale. C'est-à-dire, mettons plus de vaccins en circulation, vaccinons plus rapidement, augmentons la capacité des tests, et notamment la question des tests salivaires. Pourquoi est-ce qu'on est
un monde idéal
pays au monde à ne pas les avoir déployés, ça va beaucoup plus vite. Continuons d'avoir un suivi précis de l'épidémie. Et si on ne doit pas reconfiner, mais tant mieux. Moi, je serai le premier heureux.
Bien sûr.
Je serai en plus de ça le premier à reconnaître qu'il ne fallait pas le faire. Mais après, il faut mettre en face les moyens nécessaires pour gagner contre ce virus. Et pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est que les Françaises et les Français, d'ici le 15 mars prochain, c'est-à-dire dans un mois, ceux qui n'ont pas de rendez-vous pour se faire vacciner, ils ne pourront pas se faire vacciner.
Absolument, et mais ça, c'est un monde idéal que vous décrivez. Hein.
Oui.
Si je peux intervenir.
Oui, Serge Grohard, allez-y.
Bien sûr.
Ce n'est pas un monde idéal, c'est ce qui relève de la responsabilité d'un gouvernement.
C'est ça
qui est en jeu, c'est pas ce que dit Pierre Jouvet. Il y a des choses qui relèvent du gouvernement, et notamment la vaccination, et notamment la capacité de faire des tests. Mmh. Et on voit effectivement les deux défaillances majeures sur ces deux sujets-là qui sont essentiels pour qu'on arrive à en sortir, parce que la clé, elle est là de la sortie de la pandémie. Moi, je veux dire également que, pour reprendre ce qui se disait tout à l'heure, on n'est pas, si je peux me permettre de parler. Les maires, on n'est pas dans une logique d'opposition, on est dans l'action. Mmh. On est tous les jours dans l'action. Moi, tous les jours, je fais le point avec le centre de vaccination. Tous les jours, je vois si on a des tests, si on n'a pas de tests. On a organisé ça avant les vacances de Noël avec nos amis militaires, d'ailleurs, qui nous ont donné un gros coup de main pour faire une politique de tests que le gouvernement était infoutu de mettre en place. La réalité, on est dans l'action, mais on constate les défaillances et qui relève de la responsabilité de l'État. Mmh. C'est ça qui pose problème.
Oui, parce qu'aujourd'hui, s'il y a près de 2 millions Pierre de personnes qui sont vaccinées en France, il ne faut pas l'oublier, Serge Grohard a raison de le dire, s'il y a près de 2 millions de personnes qui sont vaccinées en France, c'est grâce à l'organisation territoriale, grâce à l'organisation qui a été mise en place par tous les maires. Et parce qu'après, le président de la République a beau jeu de dire « certains maires jouent dans l'opposition », enfin, si on jouait dans l'opposition avec Serge Grohard, on n'aurait pas mis en place de centre de vaccination. Moi, je n'aurais pas mis en place de campagne de test. Et je n'aurais pas acheté des masques pour toute ma population au mois de mars quand l'État n'était pas capable d'en trouver et d'en fournir.
Bien sûr.
Pardon, bien messieurs, mais vous êtes aussi, vous, sous la pression de vos administrés qui réclament d'être vaccinés. Donc, vous ne pouvez pas ignorer ce que demande votre population. Donc, certes, vous n'êtes pas dans l'opposition, mais vous dirigez des villes dont les habitants disent « je veux être vacciné ». Donc, vous essayez d'organiser les choses pour qu'ils puissent l'être.
Oui.
Exactement.
Absolument.
Sans avoir les moyens.
Oui, voilà, exactement. Allez, je voulais simplement ajouter une chose. Là où vous avez tout à fait raison, c'est que la sortie de cette crise sanitaire ne se fera que quand le pays aura une couverture vaccinale à un niveau, disons, suffisant. Et là, le gouvernement, en ayant sous-calibré la campagne vaccinale, en ayant méprisé l'organisation de cette campagne, en ayant considéré que c'était pas tellement de son ressort, mais il se tire une balle dans le pied, parce que le plus longtemps durera cette campagne, le plus longtemps mettrons-nous à sortir de cette crise sanitaire. Et c'est tout à fait stupéfiant qu'il n'ait pas pris les choses en main sérieusement, parce que le retard pris ne se rattrapera pas. Je rappelle que plus lentement ont été faites les deuxièmes doses, au même rythme se feront les deuxièmes doses. Il faut 3 semaines entre la première et la deuxième dose. S'il y a eu 500 vaccinés la première semaine de janvier, il y aura 3 semaines après 500 personnes qui recevront leur deuxième dose. Oui. Donc le rythme va rester extrêmement lent et sera calqué sur le rythme de départ.
J'ai raconté en début de semaine ce que m'a dit une médecin, à savoir qu'elle était aller pour sa deuxième dose, une femme qui a plus de 65 ans, qui continue de consulter et qui est à l'Hôtel Dieu, on lui a dit revenez dans une semaine parce qu'on est passé de 21 à 28 jours. Tout ça sans prévenir les médecins qui avaient annulé leur consultation, qui ont fait la queue pendant une heure. Et donc il y a une désorganisation aujourd'hui sur cette vaccination qui est totale et partout en France. On va marquer une pause, on va changer de sujet. On va parler de cette visite du chef de l'État à Nantes qui va annoncer de nouveaux dispositif pour améliorer la diversité sociale et culturelle dans la haute fonction publique. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
On est ensemble jusqu'à midi avec Pierre Jouvet, porte-parole du PS et maire de Saint-Vallier dans la Drôme, Serge Grouard, maire LR, Les Républicains d'Orléans, Virginie Leguet, chef adjoint au service politique de Paris Match, et Alex Darmon, journaliste politique et youtubeur. Votre chaîne s'appelle Les Indécis. Alors, on a un auditeur qui voulait réagir sur notre précédent débat. Dominique, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour. Je voudrais faire une remarque brève.
Oui.
Je rends hommage, bien sûr, au travail des maires sur le terrain. Mais là, je m'adresse non pas aux maires, mais aux représentants des deux partis politiques d'opposition. Est-ce qu'ils peuvent se contenter d'être dans la déploration quand ils constatent, ils font le constat d'une incapacité majeure, réitérée, presque permanente du gouvernement à agir efficacement et à faire les bons choix dans la gestion du Covid? Est-ce qu'ils ne devraient pas être plus pugnaces d'une manière ou d'une autre au plan politique? Quel débouché politique pour leur opposition? On a l'impression qu'on les entend pas. On les entend pas, on les voit pas, ils sont pas assez pugnaces. Est-ce qu'ils ont peur qu'on leur reproche d'entraver l'action du gouvernement? Ils viennent de dire eux-mêmes qu'il y a une inaction et une mauvaise action du gouvernement. Alors que diable opposez-vous?
Oui. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à Dominique, Serge Grouard? Pas d'opposition.
Mais je vous ai dit, on est dans la... Moi, je ne m'oppose pas pour m'opposer, pour le plaisir de m'opposer. Je dis un certain nombre de choses. Après, votre auditeur, c'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'il dit finalement que les oppositions n'existent pas suffisamment. Je ne peux pas lui donner tort.
C'est ça.
Je ne peux pas lui donner tort. Là, on est sur des sujets qui sont dans l'action au quotidien. Et là, avec Pierre Jouvet, quelle que soit notre sensibilité politique, on agit. On est, vous le disiez tout à l'heure, on est au service des habitants et on essaye de faire le mieux possible dans l'action. Et on constate encore une fois les dysfonctionnements.
Oui.
Voilà.
Alors, Pierre Jouvet?
On agit. Effectivement, que les oppositions dans le jeu politique actuel ne soient peut-être pas assez audibles, je le déplore et je le regrette moi aussi. Ce que je veux dire à votre auditeur, peut-être pour le rassurer, c'est que dans un peu plus d'un an maintenant, il va y avoir une élection présidentielle. Et qu'il va y avoir un débat, et ce débat-là, on le portera, on dira ce qu'il en est, et on fera aussi un contre-modèle de proposition pour la façon dont on voit la gestion du pays demain. Et c'est ça la réalité, c'est qu'il faudra voir aussi, au regard de ce qui aura été fait pendant 5 ans, quel modèle, quelle vision on veut proposer aux Françaises et aux Français. En tout cas, nous, au Parti Socialiste, c'est ce sur quoi on essaye de travailler.
Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'opposition sur le débat, concrètement.
Non, mais si je peux ajouter un mot là-dessus, parce qu'on est dans le quotidien, là. On parle des choses du quotidien, mais effectivement, ce qui a été dit tout à l'heure dans le débat, c'est qu'on constatait la situation de dégradation de la France en général.
Oui, absolument.
La crise Covid est révélatrice de cette dégradation. Alors, on peut la faire remonter à quand on veut, peu importe, on peut se chamailler pendant des années là-dessus, ça n'apportera pas grand-chose. La question, c'est qu'est-ce que l'on propose? Et je pense que les maires sont particulièrement bien placés pour avoir des propositions qui soient très concrètes, qui soient plus dans des logiques idéologiques et politiciennes, mais qui répondent concrètement aux difficultés du pays d'aujourd'hui. Voilà.
C'est quoi l'après?
Virginie.
Le problème pour vous, les élus, et c'est une question très cruelle, c'est que les oppositions n'ont pas réussi à exister dans le paysage politique depuis l'élection d'Emmanuel Macron, et que certes, il y a une élection présidentielle dans un an, mais que ce que j'entendais, moi, dans l'interrogation de notre auditeur Dominique, c'est que lui-même se dit, mais où sont-ils ces grands partis politiques qui se sont succédé au pouvoir depuis le début de la Ve République, je parle de la gauche et de la droite de façon un peu générique, mais que sont-ils devenus? Et là, il y a quelque chose d'effrayant, je pense, pour un électeur, de se dire que finalement, il risque, peut-être, de se retrouver lors de la prochaine élection présidentielle avec un face-à-face mais qu'il redoute, il n'a cessé de dire qu'il le redoutait, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc, messieurs, vous n'êtes pas responsables, probablement, mais il y a une absence sur la scène nationale d'un discours d'opposition de la gauche et de la droite qui est parfaitement criante et parfaitement désespérante pour beaucoup d'électeurs.
Vous avez raison, mais c'est parce qu'aussi il y a une absence d'incarnation, je suis désolé.
Oui, c'est vrai.
Absence de grande personnalité politique. Moi j'entends ce que dit Dominique, j'ai l'impression qu'on a acté depuis 2017 et que ça a été acté entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qu'en 2022 ça sera entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et aujourd'hui il n'y a plus d'offre politique alternative, et c'est vrai qu'il n'y a pas d'opposition. solution. Et vous n'êtes pas directement responsable, effectivement. C'est les appareils politiques qui sont responsables, qui n'ont pas su se renouveler, comme l'a fait indirectement le Rassemblement National à un moment donné, en renouvelant ses générations et ses personnalités politiques, et ouais. comme essaye de le faire Emmanuel Macron, qui est forcément plus présent à l'image et dans les journaux, parce qu'il est au pouvoir. Donc effectivement, il y a un problème d'opposition dans notre pays aujourd'hui.
Oui, bon.
Mais je crois que le problème, c'est un vrai sujet extrêmement intéressant. Le problème de fond, il faut se le dire aussi, il faut regarder les choses et la vérité en face. Emmanuel Macron, il est arrivé au pouvoir en 2017, il a fracassé le paysage politique.
Il était déjà fracassé, hein?
Non, il était déjà fracassé. Enfin, je vous rappelle, excusez-moi du peu, et je peux vous en parler en conscience. Le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, c'est 29 députés. Ouais. 29 députés. Mmh. On a été totalement rasés. Nous, quand on a repris le parti,
de votre faute aussi.
Fort, on a repris un parti qui était totalement en lambeaux. Ouais. Une partie des élus était partie chez Emmanuel Macron. L'autre partie des élus avait été battue et complètement balayée. Et la droite, quelque part, quelques années après, a vécu le même lessivage politique avec les scores aux élections européennes qu'on a fait les uns et les autres. Et donc, on est dans un moment de reconstruction politique. Et effectivement,
qui tarde à venir.
Ça fait 4 ans, quand même, effectivement.
Oui, mais attendez, quand vous vous retrouvez à repartir de zéro, bien sûr que ça fait 4 ans, mais tout ne se refait pas en un jour. Et donc, nous, tout notre enjeu, et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de reformer une offre politique de rassemblement à gauche qui permette de proposer une offre politique.
Ouais. Bonne chance, parce que quand on voit la quantité des candidats qui se présentent, alors là, franchement, vous avez fort à faire.
C'est ce que dit un auditeur, il n'y a pas d'opposition, il y a trop d'opposition et incapable à gauche, en tout cas, de s'allier. Je voudrais qu'on dise quand même quelques mots à propos donc de cette visite du chef de l'État et c'est un déplacement sur le thème de l'égalité des chances à Nantes aujourd'hui, puisqu'il veut améliorer la diversité sociale et culturelle dans la haute fonction publique. Alors, est-ce que c'est de la discrimination positive, sans le dire? Il veut que le nombre de places destinées aux étudiants des quartiers défavorisés ou ruraux soit augmenté de 1000 places pour passer à 1700. Des accès leur seront réservés dans 5 grandes écoles publiques. S'y ajoute la mise en place d'un seuil minimal de 2 classes préparatoires par région, ainsi qu'un doublement de l'allocation talent pour promouvoir la diversité. Alors, c'est quoi la diversité? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Serge Grouard, je regardais si je trouvais votre CV, savoir si vous étiez passé par les grandes administrations, mais j'ai découvert que vous aviez publié un livre sur un essai de politique et de stratégie spatiale, donc je comprends votre coup de cœur de début d'émission. Voilà, je vous ai...
À nos premières amours.
Absolument, absolument. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ce déplacement? Et est-ce qu'encore une fois, c'est une sorte de voilà, on veut montrer, faire un marqueur de gauche pour Emmanuel Macron et que c'est politique et finalement assez abstrait quand même dans la manière de faire les choses?
Je pense au fond que le président de la République peut avoir parfois des intuitions, des bonnes intuitions, mais il n'a jamais le bon mode de fonctionnement derrière. Alors je m'explique. Si l'on est sur l'idée de l'égalité des chances, très bien. Parce que effectivement, l'égalité des chances, elle n'est pas là. On sait bien que si l'on est parisien, issu d'un certain milieu, on a plus de chances d'intégrer HEC, Sciences Po et l'ENA que si on vient d'un milieu rural ou si on vient d'un quartier de je ne sais où.
Les statistiques sont parfaitement là, vous avez raison.
Oui, allez-y.
Parfaitement clair. Les statistiques sont parfaitement claires et la consanguinité, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Donc, il faut pouvoir aérer. Il faut pouvoir aérer, il faut pouvoir renouveler. On est parfaitement d'accord. Donc, si c'est par exemple pour dire on va développer les bourses pour des étudiants qui n'ont pas les moyens, oui, mille fois oui. Si l'on fait des endroits qui ne sont pas pourvus, par exemple, en classe préparatoire, oui. Si maintenant on en est à dire on réserve des places, pour telle ou telle catégorie, telle ou telle personne, etc. Moi, je dis non. Pourquoi? Parce qu'on a besoin aujourd'hui, plus que jamais dans notre système éducatif, de l'excellence. On a besoin de la compétence. Et celle-là, elle ne peut pas se discriminer par je ne sais quel critère, parce qu'on revient avec ces critères sur un principe d'excellence. Et je dis aujourd'hui que dans la compétition telle qu'elle est dans le monde, nous avons besoin de monter le niveau de l'enseignement et de l'enseignement supérieur notamment. Et moi, je ne voudrais pas, par ce type de mesure un peu démago aussi, parce que ça ne touche pas que quelques personnes, au fond, on dévalorise le niveau, alors qu'au contraire, on n'est pas si bien classé que cela. L'éducation française, c'était quand même une force fabuleuse. il y a un certain nombre de décennies, et ça s'est effrité. Alors il faut faire monter l'excellence plutôt que d'être dans ces discriminations positives. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus, je suis pour l'égalité des chances, mais pas pour la discrimination positive.
Oui, je comprends ce que vous dites, hein, monsieur le maire. J'ai toujours été aussi... je ne sais pas comment me placer par rapport à la discrimination positive, mais quels sont les critères de l'excellence, selon vous? Est-ce que les parcours de vie, certains parcours de vie, ne font pas partie de ces critères d'excellence? Honnêtement,
alors, vous avez raison, c'est très subjectif. Mais je prends un exemple. Quand vous passez des concours, et j'en ai passé quelques-uns, vous avez un principe d'anonymat. Vous avez des épreuves écrites où vous avez l'anonymat, c'est-à-dire que le jury ne peut pas percevoir qui vous êtes, d'où vous venez, etc. Ça garantit la neutralité dans tout simplement les corrections des épreuves.
Mais c'est pas un critère de l'excellence, c'est ça que je veux vous dire. Vous voyez ?
Si, avec toute son imperfection, il y a l'intention de l'excellence. Moi, j'ai été correcteur, par exemple, dans des concours. Alors, je ne peux pas vous dire que... j'ai été jury de concours, je ne peux pas vous dire j'ai fait tout parfaitement, ce n'est pas vrai, il y a une part de subjectivité. Mais on s'essaye à choisir les candidats qui vont être, a priori pour nous, les meilleurs. Donc on est sur cette logique-là, on n'est pas sur une logique, par exemple, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce qu'il est de telle origine ou de telle autre. On n'est pas du tout sur ce genre de critères.
Ouais.
Et là, je crains que ce genre de critères ne dévalue ce critère d'excellence, dont je conviens avec vous, qu'il a une part de subjectivité, hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais il y a cette intention qui est importante. Quand on est maintenant sur des épreuves, ce qu'on appelle un grand oral, où le grand oral, c'est un peu du bavardage sur de la culture générale, je suis désolé, ce n'est plus un moyen pour moi de sélection.
Mais pardon, monsieur, mais est-ce que le critère de sélection n'a pas joué depuis le début du parcours scolaire? Quels sont les enfants qui arrivent dans les bons collèges, qui arrivent dans les bons lycées, qui arrivent dans les bonnes prépas qui elles-mêmes permettent à ces mêmes enfants d'arriver dans les bonnes écoles. Oui. Lorsque vous me parlez des entretiens que vous avez fait passer dans les écoles, la sélection, elle s'est déjà opérée depuis des années. Et vous avez en face de vous des élèves qui font quand même partie de milieux généralement assez favorisés, assez éduqués, dont les parents ont été là à chaque année de la scolarité et qui ont bénéficié d'un entourage et d'un accompagnement dont d'autres n'ont pas bénéficié. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à ce qui se passe depuis le début, très en amont?
C'est le principe de l'égalité des chances que vous dites là. Ce que vous décrivez, je suis mille fois d'accord avec vous là-dessus pour ouvrir le système. Mais la discrimination, c'est autre chose. C'est une autre forme de sélection qui ne repose plus sur le critère subjectif, encore une fois, de compétences et d'excellence. J'ai parlé tout à l'heure de science. Bah, écoutez, quand vous donnez un problème de mathématiques dans un concours, vous savez le résoudre ou vous ne savez pas le résoudre. C'est un critère objectif. Si maintenant vous dites, ah ben oui, mais celui-là, il n'a pas eu trop de chance quand il était plus jeune, donc il n'a pas bien résolu le problème, mais on va quand même le sélectionner alors que l'autre, il a été excellent, là, je ne suis pas d'accord.
Non, ce que je dis, c'est qu'ils sont déjà sélectionnés quand ils arrivent au concours. Ils sont déjà triés.
Ça commence beaucoup plus tôt. Remarque assez juste et même très juste d'une auditrice qui me dit, Macron lutte contre le séparatisme culturel et il veut promouvoir la diversité culturelle. Quelle est la cohérence? C'est tout à fait exact. Pierre Jouvet?
Non, bah, ce qui est malheureux, c'est qu'en fait, la discrimination positive, malheureusement, c'est en fait un sparadrap sur une jambe de bois.
Voilà.
Ça arrive bien trop tard. La réalité, c'est qu'il faut tout prendre au départ. Comment expliquer qu'entre un élève de terminale du lycée Henri Laurens de Saint-Vallier, il ait deux fois moins de chances de réussir le concours de Sciences Po qu'un élève du lycée en terminale de Henri IV à Paris? Le problème, il vient de là aussi. Et donc, on doit reprendre sur la structure éducative dès la base, reprendre dès les inégalités sociales et familiales dès le départ, parce qu'on voit que tout ça vient de là, sur la capacité d'accès à la culture, sur la capacité d'avoir accès à des plages hors temps scolaire pour aider et accompagner les enfants qui peuvent être en difficulté. C'est pas arriver au bout du bout en disant on va réserver 5 places pour des ruraux, 5 places pour des jeunes de banlieue qui va régler le problème, parce que ça a déjà été essayé et testé 10 fois, et ça ne règle pas le problème à la base de l'inégalité de départ. Et donc, il faut reprendre le schéma et le système par l'inverse. C'est pas essayer simplement de faire un petit coup à quelques...
Non, mais vous avez raison, monsieur le maire, mais après, il y a quand même une chose, c'est qu'on en parle. Et il faut quand même saluer le fait qu'on en parle dans la période actuelle.
Oui.
Et que, qu'on a un déplacement présidentiel sur le terrain pour en parler, pour prendre ce sujet à bras le corps. Moi, j'encourage toujours ce genre d'initiative parce qu'au moins, ça fait la une des journaux et les gens comprennent de quoi on parle. Il faut le souligner quand même.
Alors moi, je note que ça intervient un an avant l'élection présidentielle, qu'Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 4 ans et que là, il ne fait pas de plan, mais des petites annonces dont il dit qu'elles seront opérationnelles dès septembre prochain et qu'il y a bien une arrière-pensée politique très forte à se lancer dans cette direction politique-là.
Mais bien sûr, mais c'est la politique.
Il y a un œil à son aile gauche parce qu'il est en train de la perdre totalement et qu'il faudrait essayer de rattraper un peu l'électorat de gauche à quelques mois de la présidentielle, vous avez raison.
Allez, merci à tous les quatre, merci d'avoir été là. On a fini, voilà, et puis on se retrouve demain. Merci à vous et très bonne journée sur Sud Radio, à demain.